les lignes rouges de l'Iran toutes une fois respectées, il sera prêt pour un accord final, a dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Une frappe de missile a ciblé une base américaine près du champ pétrolier d'Al-Omar, à l'est d'Erezer, en Syrie. Et au Niger, deux policiers et des civils ont été tués dans une attaque près de la frontière avec le Burkina Faso. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue britannique, Liz Truss, se sont entretenus par téléphone ce mercredi soir, 16 mars, sur des questions liées aux relations bilatérales et aux importantes évolutions internationales. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, s'est dite satisfaite des nouveaux développements positifs dans les relations Téhéran-Londres et a appelé à l'expansion des relations entre les deux pays. Saluant le remboursement d'une ancienne dette britannique, attendue depuis plus de 4 décennies, en tant que droit de la grande nation iranienne, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé son espoir que le terrain sera aplani pour le développement des relations bilatérales par des mesures de confiance. Les deux parties ont également échangé des vues sur le dernier statut des pourparlers de Vienne et exprimé l'espoir d'un accord final. Amir Abdollahian a souligné « Nous sommes plus proches que jamais du point final de l'accord, mais arriver à un accord bon et durable nécessite le comportement réaliste des États-Unis et l'abandon par ces derniers des exigences incorrectes. Si toutes nos lignes rouges sont respectées, nous sommes prêts pour un accord final », a conclu le ministre iranien des Affaires étrangères. Une frappe de missile a ciblé une base américaine près du champ pétrolier d'Al-Omar, à l'est d'Erezer, a annoncé Sana, l'agence de presse officielle syrienne. Des médias arabes ont rapporté jeudi matin qu'il y avait eu des attaques contre une base militaire américaine située en Syrie. Des sources d'information arabes ont également précisé qu'un drone avait été utilisé lors de cette attaque, lancée contre la base des forces d'occupation américaines. À la suite d'une attaque de missiles inconnus, 5 puissantes explosions ont secoué la base illégale utilisée par l'armée américaine dans le plus grand champ pétrolier de Syrie, a quant à elle annoncé l'agence de presse russe Sputnik. Une série d'explosions puissantes a secoué la zone située autour du champ pétrolier d'Al-Omar appartenant aux occupants américains et son bruit a été entendu dans toute la région, selon Sputnik se référant à des sources locales. Ces dernières ont précisé aussi qu'immédiatement après les explosions, un grand nombre de drones américains avaient survolé la région. Par ailleurs, selon l'agence de presse turque Anatolie, l'armée américaine a décidé de renforcer ses bases militaires en Syrie et plus particulièrement à Saqqeh et à Erezer, à la suite de l'attaque au missile de l'Iran contre les bases du Mossad situées dans le nord irakien. Des dizaines de camions sont ainsi entrés en Syrie depuis le poste frontière Al-Walid les 14 et 15 mars, se dirigeant vers les bases américaines de Ramadan à Saqqeh. Le convoi, composé d'environ 150 camions, transportait du matériel militaire et logistique. Anatolie a ajouté que 30 véhicules militaires et de grandes quantités de munitions avaient été ainsi acheminés jusqu'aux régions pétrolifères du nord syrien. Rappelons que cette région est sous le contrôle des forces kurdes soutenues par les États-Unis. Des affrontements sporadiques entre des mercenaires et des forces yéménites se poursuivent sur l'axe sud de la ville de Marib, mais les combats se sont considérablement apaisés par rapport au mois précédent. Depuis les banlieues ouest et nord-ouest, les combattants yéménites sont respectivement stationnés à 11 et 15 km de la ville de Marib. Dans le nord-ouest et l'ouest de la province de Marib, le rapport de force est en faveur des combattants yéménites. D'autre part, plus de 98% de Metral à Marib est sous le contrôle des forces yéménites et seules quelques zones dans la partie sud-est du district, limitrophes de la ville de Marib et Sirwa, sont occupées par des éléments de la coalition d'agression saoudienne. Il convient de noter que la majeure partie du secteur de Sirwa, à l'ouest de la province de Marib, est sous le contrôle des combattants yéménites et les mercenaires du régime saoudien n'occupent aucun autre point que les petites zones. Les parties sud, sud-ouest et sud-est de la province de Marib ont été libérées ces derniers mois et sont sous le contrôle des combattants yéménites. Les yéménites ont pris le contrôle d'environ 95% de la région d'Al-Jouba, qui a été l'un des axes d'opération ces derniers mois, et les combattants tentent d'encercler la ville de Marib depuis l'axe sud en avançant sur l'axe nord. Ces derniers mois, les combattants yéménites ont conjugué leurs efforts pour faire une progression sur les axes nord, ouest, sud et est de la province afin d'augmenter la pression sur les éléments saoudiens et atteindre le centre et assiéger la ville de Marib sans conflit. La prévision de croissance du PIB en France est maintenue à plus 0,3% pour le premier trimestre, après plus 0,7% au trimestre précédent, avec toutefois plus d'incertitudes qu'à l'accoutumée, notamment pour mars, a annoncé l'Institut de la statistique et des études économiques. Ce mercredi, sans donner de prévision pour la suite de l'année. La guerre en Ukraine est un événement géopolitique porteur de conséquences économiques importantes à court terme en attisant l'inflation, comme à plus long terme avec la réorganisation probable de certaines chaînes de valeur. Elle survient dans un contexte déjà marqué par de fortes tensions sur les prix en lien avec le dynamisme de la reprise mondiale en sortie de crise sanitaire, a précisé l'Institut dans sa note de conjoncture. La guerre en Ukraine et les sanctions adoptées contre la Russie affectent l'économie française par trois chocs. Un choc sur le prix de l'énergie et des matières premières, un choc d'incertitude et un choc sur le commerce extérieur, a précisé la note. Le choc sur les prix de certaines importations peut par ailleurs se doubler d'un choc sur les volumes, avec le risque d'un accroissement des difficultés d'approvisionnement, alors même que celles qui préexistaient, par exemple s'agissant des semi-conducteurs, ne semblent pas encore résorbées. La croissance devrait logiquement s'en ressentir dans les prochains mois, a averti l'Institut. Si les prix d'importation de l'énergie observés début mars, certes très relatifs, devaient se maintenir jusqu'à la fin de l'année, la perte d'activité associée pourrait être de près d'un point de PIB annuel pour l'économie française en 2022, relativement aux évolutions que l'on aurait pu attendre en l'absence de conflit. Dans sa prévision, les perspectives d'inflation pour les prochains mois sont également incertaines, s'agissant notamment de l'énergie, même si la remise à la pompe réduirait la hausse des prix des carburants. Les prix alimentaires pourraient être tirés à la hausse par les cours des matières premières, mais aussi à la suite des négociations commerciales entre producteurs et distributeurs. Le glissement annuel global des prix pourrait ainsi se situer autour de 4,5% entre avril et juin. Deux policiers et des civils, dont le nombre n'a pas encore été déterminé, ont été tués mercredi 16 mars dans une attaque dans la localité de Téra, à l'ouest du Niger, près de la frontière du Burkina Faso, a rapporté une source sécuritaire. Un bus en provenance du Burkina Faso et en route pour Téra était revenu en trombe au poste de police frontalier de Petel-Koli. Les passagers ont indiqué que le bus venait d'être intercepté par des bandits armés à environ 5 km entre le village de Fono et Zélangué 2, a rapporté un message des services de sécurité nigériens. Ce bus transportait trois agents affectés au poste de police frontalier se rendant à la maison et plusieurs civils, a ajouté la même source, précisant qu'à l'arrivée d'un détachement de la police, le bus et un camion gros porteur en provenance de Téra étaient en flammes. Selon la même source, plusieurs corps sans vie, dont ceux de deux policiers, ont été découverts sur les lieux. Le troisième policier et d'autres civils blessés ont été évacués à l'hôpital de Téra. La localité de Téra est située dans la région de Tillaberi et dans la zone dite des trois frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. À l'instar de beaucoup d'autres localités de Tillaberi, Téra est confrontée depuis 2017 à des attaques armées attribuées aux groupes opérant dans la zone des trois frontières. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Envoi de troupes syriennes en Ukraine. Assad y creuse la tombe de l'US Army. Quel est le phénomène le plus frappant en Ukraine, où la Russie se bat contre la même coalition qu'elle combat en Syrie? Les pro-occidentaux répondraient volontiers. L'enlisement russe. Les sources Atlantis se félicitent du fait que Moscou n'exige plus la tête de Zelensky, car M. Lavrov évoque même un possible compromis avec Kiev et que surtout la perspective d'une prise rapide de Kiev s'éloigne. Les Occidentaux soulignent en effet que l'armée reste bloquée depuis une dizaine de jours sur le triple front du nord-est, Kharkov et Soumia, du sud, Kherson et Mariupol, et du nord, Kiev, sans rappeler l'enlisement de l'armée ukrainienne qui, elle est aussi incapable de contre-attaque. Mais pour l'axe US-OTAN-Israël, la mission est presque accomplie dans la mesure où il a tout fait pour que la Russie s'enfonce. Voici ce que les experts impartiaux relèvent en observant ces 21 jours de combat. Les Occidentaux auraient pu agir en sorte que la Russie et l'Ukraine entrent en dialogue autour des garanties exigées par Moscou, mais ils ne l'ont pas fait à dessein. Ils auraient pu affirmer haut et fort que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN, mais ils ont refusé de le faire. Ils auraient pu aussi ne pas envoyer ces quantités folles d'armes et de munitions à Donbass, mais ils ont fait l'inverse. Et tout ceci dans le but précis de déclencher la guerre ultra-sanglante sur le dos d'une Ukraine qui n'existe plus et d'une Russie qui n'a plus d'autre choix que d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, si l'Occident ne voulait pas la guerre, il aurait pu créer ce fameux corridor militaire qui relie l'Europe de l'Ouest à la Pologne, bien avant le 24 février, façon de dissuader Moscou de s'y engager militairement. Or, la stratégie occidentale a été peaufinée en sorte que la Russie ait à choisir entre Charyb et Sylla, tout en injectant une très bonne dose de paramilitaires et de mercenaires à cet ensemble et en condamnant les plus slaves des peuples de l'Europe de l'Est, Ukraine et Russie, à s'entretuer et à se haïr éternellement. Au fait, le modus operandi de la stratégie de guerre US-OTAN a été testé en 2020 au Caucase ou sur un fond de décor aérien assuré par les satellites et les avions espions occidentaux. Les drones Bayraktar ont fait semblant d'anéantir des unités de dessin entières made in Russie de l'Arménie et mettre au pas celle-ci. Mais si cette apparente victoire du camp occidental avait en arrière-plan un colossal échec, la question a tout lieu d'être posée quand on s'en souvient que l'enlisement programmé de la Russie visait surtout à la pousser à retirer ses forces de la Syrie et à exposer celle-ci aux frappes aériennes US-Israël-OTAN de façon à ce que la donne marquée par la tonitruante défaite militaire US-acolyte s'y inverse. Alors, c'est quoi le phénomène le plus frappant qui se déroule en ce moment en Ukraine et plus singulièrement à Donbass? L'envoi des centaines de soldats syriens sur le front a l'effet d'appuyer la puissante armée russe. Mais n'est-ce pas que les commentaires occidentaux prévoyaient jusqu'ici les pires lendemains pour une armée syrienne totalement exsangue? La voilà parfaitement reconstituée au point de pouvoir se battre sur un nouveau front. Est-ce par simple respect d'alliance avec la Russie ou l'État syrien poursuit-il d'autres objectifs? Plus d'un expert tendrait à voir à travers ce choix stratégique de la Syrie non seulement un service rendu à l'allié russe, mais aussi et surtout une tactique qui pourrait largement servir la cause de la libération d'un tiers du pays, encore aux mains des forces d'occupation étrangères turques et américaines. Et puis, n'y a-t-il pas là une tactique bien porteuse qui dévoierait l'attention de l'axe US-OTAN de la Syrie vers l'Ukraine? Le scénario de syrisation de l'Ukraine a ceci de fatal pour l'Occident, qu'il n'a aucune surprise pour la Syrie et que Damas le connaît par cœur. Du coup, cette banalité en fait un excellent terrain où Assad jouerait ses cartes surprises.